Ça, on commencera une nouvelle série sur le livre de 1 Samuel et la vie de David. Et c'est aussi le thème qui sera présenté lors du même week-end au Lumignon. Je lis en Apocalypse chapitre 7 et les versets 9 à 17. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, et puis on prendra encore deux versets en Apocalypse 22, 3 à 5. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et puis Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 5. Ici, c'est les nouveaux ciels, les nouvelles terres, le nouveau paradis. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ce matin, je voudrais qu'on regarde qu'est-ce qu'on fera au ciel. Et c'est un sujet qui nous préoccupe parfois un petit peu. Qu'est-ce qu'on fera au ciel ? Il y a quelque chose en nous qui craint de s'ennuyer au ciel, non ? Parce que ça risque d'être long. Imaginez un chrétien tétraplégique, les doigts déformés, les muscles atrophiés, les genoux noueux, le corps insensible des épaules jusqu'aux pieds. Il va recevoir un corps tout neuf, glorieux, plein de force, qui n'est plus sujet à la maladie, à la faim, à la fatigue, à la souffrance. Est-ce que vous pouvez imaginer l'espoir que cela donne à une personne infirme et limitée depuis des années dans son corps méprisable ? Un nouveau corps, le ciel. Maintenant, quel sens cela a si nous sommes assis sur un nuage avec une harpe ? Cette personne a été assise dans un fauteuil pendant des années. Vous pensez qu'elle rêve de s'asseoir enfin sur un nuage ? Oh non. Maintenant que Dieu lui donne un corps glorieux, elle veut vivre. Elle veut servir. Elle veut louer Dieu de tout son être. Elle ne veut plus se reposer. Maintenant, elle veut vivre. Et je pense que c'est un petit peu dans cette dimension-là. On gémit dans notre corps, dans notre tente, ici-bas. Mais quand on va arriver au ciel, on va commencer à vivre. On va pouvoir servir sans limite. On va pouvoir régner avec notre Seigneur. On va pouvoir le glorifier comme jamais. Alors avant de voir ce que l'on fera au ciel, j'aimerais juste vous dire quelques petites choses que l'on ne fera plus au ciel. D'accord ? Ça va nous aider aussi. Déjà dans notre passage au verset 16 et 17, il dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. Ils n'auront plus de larmes non plus. » Il dit ici, on ne fera plus de mal. On ne fera plus de mal. Ça va éliminer énormément de nos soucis et de nos problèmes. Nous ne pécherons plus. Nous n'aurons plus à demander pardon. Nous n'aurons jamais à lutter contre la tentation. Nous ne serons jamais coupables. Nous ne nous tromperons plus. Et donc nous n'aurons plus à nous excuser, à réparer nos erreurs, nos maladresses, nos mauvaises paroles. Nous ne connaîtrons plus la gêne. Nous n'aurons plus à nous défendre parce que nous ne connaîtrons plus d'attaque. Nous ne serons plus jamais tristes, blessés, malades, découragés, fatigués. Nous ne connaîtrons plus la solitude, le deuil, la peine, la crainte. Ouf. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait plus tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais qu'on voit ce matin, on va adorer Dieu. On adorera Dieu, on règnera avec lui, on servira Dieu parfaitement, et tout cela éternellement. Éternellement. Voyons, on adorera Dieu. Il est évident quand on lit l'Apocalypse que nous allons célébrer la gloire de notre Dieu et nous serons tous portés sur la louange. Dans notre passage, il est dit au verset 10, il crie d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent devant leur face, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Si vous regardez quelques passages en arrière, en Apocalypse chapitre 4, le verset 10, il est dit « Les 24 vieillards, qui je crois sont des représentants de l'Église, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Au chapitre 5 et au verset 8, il est dit « Quand il eut pris le livre des quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun dans une harpe, chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu » par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Continue encore, verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre, et tout ce qui s'y trouve, et je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous pouvez rechercher encore les passages en Apocalypse, chapitre 11, versets 16 à 17, chapitre 15, versets 2 à 4, chapitre 19, versets 1 à 6. Vous savez, on va louer Dieu. Il faut se préparer avec cette pensée. Il y a quelques jours, j'étais avec un frère, on discutait un petit peu de son désir de servir dans l'église, mais il m'a dit, oh, j'écarte la louange, la chorale, la musique, non, ça, c'est pas mon don. Visiblement, c'est pas son don. Mais alors, au ciel, on va tous célébrer Dieu. La louange, ce sera notre don. Vous avez quelques craintes, peut-être, avec cette perspective, parce que vous vous dites, l'éternité, quand même, à louer Dieu au siècle des siècles. Est-ce qu'on ne va pas un peu se répéter ou... Il arrive qu'un cantique chanté pour la centième fois nous lasse un petit peu ici-bas. Même les plus beaux chants chrétiens, ils perdent de leur dynamisme, de leur beauté avec le temps. On aimerait tout le temps chanter un cantique nouveau. Vous savez, le cantique qui... voilà, on le chante avec joie, on a hâte de le chanter. Il y a des cantiques comme ça, des fois, quand on en trouve un nouveau. Voilà, ça nous met de la joie pour... Un cantique nouveau. Vous savez, un cantique nouveau, c'est comme un tube. À la radio... une chanson nouvelle, on entend ça tout le temps, tout le monde veut chanter ça, tout le monde veut écouter ça. La chose, c'est que, bon, après quelques semaines, tout le monde s'est lassé, puis on ne les entend plus. Il faut dire que parfois, les textes évoquent vraiment le vide sidéral, et donc on peut se lasser plus rapidement. Mais un cantique nouveau, c'est une louange dont on ne se lasse jamais. Une louange dont on ne se lasse jamais. Ce ne sont pas simplement des chants, mais c'est aussi l'expression juste et intense de sentiments véritables à l'égard de Dieu. C'est l'expression parfaite de nos cœurs, qui ont une compréhension parfaite de Dieu et de son œuvre. Dans les cieux, la louange ne sera jamais vide. Elle ne manquera jamais son but. La louange ne sera jamais dépourvue de substance. Nous allons pendant l'éternité découvrir la gloire de notre Dieu, sa sagesse, sa grandeur, sa magnificence, sa grâce, sa puissance et sa force. Et ces découvertes se changeront en louange. Je me souviens d'une sœur qui était passée par des moments de souffrance terrible, des difficultés, qui avait finalement obtenu un logement. Elle pouvait alors accueillir ses 3 enfants. Mais elle n'avait pas de meubles, ni les moyens de meubler cet appartement. Et de mon côté, je devais vider un appartement de son contenu parce que le frère à qui appartenait ce logement venait de déménager dans sa demeure éternelle. Et alors je l'ai amené dans l'appartement. Puis je lui ai dit, voilà, tout ça, là, c'est pour toi, si tu veux. Et elle a regardé les choses, l'armoire, les lits, le meuble, il y avait une horloge, il y avait une table, des chaises. Et là, elle s'est effondrée sur ses genoux, les bras au ciel, comme ça. Elle a loué Dieu. Elle a remercié le Seigneur parce qu'en quelques jours, elle venait de voir la provision merveilleuse, glorieuse de Dieu. C'est ça notre cantique nouveau. C'est découvrir comme tout à nouveau un aspect de Dieu, de son caractère, et célébrer immédiatement la chose. Notre Dieu, il est infini. On va voir la manifestation de sa puissance et de la voir encore, et voir sa grâce opérer encore. On va découvrir sa gloire et sa majesté au fil des siècles. La louange s'élèvera ainsi de nos cœurs dans l'éternité. Si nous ne pouvons le faire aussi parfaitement ici-bas, c'est parce que la corruption parasite notre louange. Parfois, on s'écoute chanter. Vous voyez comment ça parasite? On veut louer Dieu. On dit, ah, c'est beau ce que je chante. L'objet, c'était de glorifier Dieu, et puis on vient de détourner ça pour notre plaisir, pour notre... Il y a quelque chose qui marche jamais bien. C'est la corruption qui a parasité notre louange. On s'écoute chanter, on chante faux. Parfois on chante faux, pas simplement dans l'harmonie, mais aussi dans les vérités que l'on chante et que l'on ne comprend pas pleinement. Ou les vérités que l'on chante et que l'on ne croit pas véritablement. Vous savez, ici-bas, on aime imparfaitement. Alors, on loue imparfaitement. Mais alors, au ciel, on aimera parfaitement. Alors, on pourra louer parfaitement. Nous louerons Dieu au siècle des siècles. Ça, c'est la fin du verset 12, ici, au siècle des siècles. Ça, on va commencer et on ne va jamais plus finir. Je peux dire à ma femme que je l'aime. Et ça fait des années qu'elle l'entend. Et je ne me lasse pas de le lui dire. Je l'aime, j'aime sa présence. Pourtant, c'est une descendante d'Ève. C'est une pécheresse. Et moi, je suis un pécheur. Imaginez au ciel, nous serons sans péché devant Dieu, le Créateur, qui s'est humilié et qui s'est donné sur une croix pour conquérir nos cœurs. Nous l'aimerons parfaitement et nous aurons les mots pour le dire et célébrer la gloire de sa grâce, et cela au siècle des siècles. Nous chanterons un cantique nouveau et ce sera le cantique des rachetés. L'expression de notre reconnaissance pour le salut dont nous jouissons aujourd'hui et pour l'éternité. Au verset 10, il est dit « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tout ce que l'on verra, tout ce que l'on sera, tout ce que l'on fera sera le fruit du salut que Dieu nous a donné par grâce. Et aujourd'hui, nous n'effleurons ces choses que de très très loin. Mais alors, nous y serons, et donc nous pourrons le célébrer, célébrer sa gloire avec puissance, avec zèle. La deuxième chose, c'est que on va adorer au siècle des siècles, et puis on va aussi régner au siècle des siècles. Ça, c'est ce que dit Apocalypse 22, verset 5. Un mot sur les couronnes. En 2 Timothée 4, 8, l'apôtre Paul dit « Connaissez bien ce passage, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » À quoi peuvent bien ressembler les couronnes ? Vous avez déjà réfléchi à ça? À quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il s'agit de couronnes comme celle de la reine d'Angleterre, en or, serties de pierres précieuses? Vous imaginez Paul? Paul avec la couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de joie. Au ciel, il sera facile à reconnaître, l'apôtre Paul. Parce que c'est le seul qui n'aura pas assez de tête pour porter toutes ses couronnes. Non. Non, je ne pense pas que ce sera des chapeaux que l'on portera sur notre tête. Regardez dans le psaume 149, verset 4. 149, verset 4. Un très beau verset. Il est dit ici, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Et selon d'autres traductions, il est dit « il couronne les malheureux en les sauvant » ou « il accorde aux humbles le salut pour parure ». Le salut, c'est leur couronne, justement. C'est le salut qui est leur couronne. Il sera... On ne va pas porter des couronnes. Il est dit, dans le mot grec pour couronne, ça désigne littéralement tout ce qui entoure quelque chose. Et en particulier, les couronnes tressées qui étaient placées sur la tête des dignitaires, des chefs militaires victorieux et puis des athlètes qui avaient remporté une course. C'était, pour les athlètes, l'unique récompense. C'était, voilà, une petite branche de laurier dont on entourait leur tête. Il n'y avait pas de prix à l'époque, hein. Il n'y avait pas de médaille en or. Non. Juste des lauriers. Les lauriers, c'est juste une récompense. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur en elle-même. Mais cette couronne, c'était le symbole de la gloire qui entourait le vainqueur. Cette couronne, elle était éphémère, hein, comme la gloire des athlètes est éphémère. Ouais, ça, c'est, la gloire, elle est tellement éphémère, parce que l'année suivante, il fallait à nouveau concourir pour remporter la victoire et encore décrocher les lauriers. Mais la couronne de joie qui nous attend est une couronne éternelle. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire, c'est une joie éternelle qui nous couronne, qui nous entoure. C'est la gloire qui est une gloire éternelle, non plus passagère. C'est la justice qui est une justice éternelle. C'est la couronne de vie, c'est-à-dire la vie qui est éternelle. Ce qui couronnera Paul de joie et de gloire, hein, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 19, ce sont les Thessaloniciens eux-mêmes. Il dit, n'êtes-vous pas notre couronne de gloire, notre couronne de joie? Bien sûr, ce sont les Thessaloniciens qui couronnent l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'ils ont été amenés à la foi en Jésus-Christ par l'apôtre Paul. Ils ont été affermis dans la foi par l'apôtre Paul. Alors dans l'éternité, ils contribueront à, si je peux dire, intensifier sa joie et sa gloire. Comme dans l'expression « la couronne de vie », hein, qui est, selon Jacques 1,12, qui est réservée à ceux qui persévèrent dans les épreuves. Une couronne de vie. Quand vous avez eu l'impression de mourir avec persévérance dans l'épreuve ici-bas, alors il est dit que vous serez couronnés de vie dans le ciel. C'est-à-dire que vous jouirez intensément de cette vie, d'autant plus que vous aurez persévéré dans cette mort, si je peux dire. Ils régneront au siècle des siècles. Nous régnerons au siècle des siècles. Ces versets de l'Apocalypse 22, et c'est dit à plusieurs reprises, l'apôtre Paul lui-même le dit également. Dans le chapitre 22, on se retrouve d'une certaine manière dans un nouvel Éden. Il y a le fleuve, il y a l'arbre de la vie, mais maintenant il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus la malédiction qui pèse sur l'humanité et sur la terre à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, mais il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Il y a des serviteurs en parfaite communion avec Dieu et qui partagent son trône. C'est magnifique, ça. C'est quoi le règne? C'est partager le trône du Seigneur. C'est partager sa domination sur tous les cieux, la terre. C'est être en parfaite communion avec lui. Il est dit, ils verront sa face, ils seront assis sur son trône. C'est-à-dire, ils jouiront pleinement de toute cette autorité. Tout ce qui a été raté dans le jardin d'Éden, tout ce qui a été perdu, sera restauré d'une manière extraordinaire. Il est dit également que l'on servira Dieu. À plusieurs reprises dans notre passage, on servira Dieu. Verset 15 ici, il est dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Jour et nuit, continuellement. Fini les semaines, il n'y a plus que des dimanches. Plus jamais de vacances. Ah, ça rigole moins là. Fini les RTT. On sert continuellement. En Luc 19, verset 17, le Seigneur Jésus dit, « C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Vous imaginez ? 10 villes pour avoir été fidèle en peu de choses. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est même paniquant. Plus vous vous montrez fidèle dans cette vie, plus vous servez ici-bas, et plus vous aurez de responsabilités, et plus vous aurez de boulot au ciel. Super ? Est-ce que ça risque pas plutôt de nous décourager de servir ici-bas ? Recevoir 10 villes. Mais Seigneur, j'ai déjà tellement de mal à m'occuper correctement de ma maison. Et tu veux me donner 10 villes ? Vous savez, aujourd'hui, notre service, notre travail, service pour le Seigneur, ou même notre vie professionnelle, notre vie de famille, il nous procure des soucis en permanence. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit qu'il est assiégé chaque jour par tous les soucis que lui donnent toutes les églises. Le service, ici-bas, il génère de la fatigue, il génère la crainte, il génère des combats, des douleurs, il génère des déceptions, des angoisses, des larmes, toutes sortes de sacrifices. Tout ça parce que nous sommes des pécheurs servant dans un monde qui est déchu, sous la puissance du malin. Alors nous avons des obstacles, des ennemis, et puis on a même une nature qui est déficiente pour servir. Notre service est aujourd'hui affecté par notre incapacité, nos difficultés, nos défauts. Je suis accablé parce que le serment qui m'a pris tellement de temps à écrire a finalement été maladroit. Parce que je suis distrait par un rien, parce que je suis défaillant dans mes différentes responsabilités, incapable de faire ou de me concentrer ou de rassembler mes idées, de me souvenir ou de comprendre. Mais au ciel, nous effectuerons parfaitement notre service. Les responsabilités qui seront les nôtres, nous les assumerons parfaitement, et ça au siècle des siècles. Et c'est ça le repos. Le repos, c'est de trouver toute la puissance, toute la capacité à profusion pour accomplir toute chose à la perfection. Le repos, c'est de faire à la perfection ce pourquoi nous avons été créés. Notre service dans l'éternité ne générera plus aucune déception, plus aucune frustration, plus aucune jalousie, plus aucun stress, plus aucun échec, plus aucun orgueil. Un salut total, parfait, et un service réalisé à la perfection. Waouh ! Je ne sais pas tout ce que contient ce service. Je sais que Dieu nous prépare ici-bas, en tout cas, pour que nous puissions l'accomplir parfaitement. Et dans notre vie, on traverse toutes sortes de choses, de difficultés, toutes sortes de combats, de batailles, de souffrances. On connaît toutes sortes d'oppositions, de déceptions. On est affligé par nos propres lacunes. Mais Dieu va utiliser toutes ces choses-là pour nous préparer pour un service parfait. Et je crois que quand on servira dans le ciel, tout ce qu'on aura appris malgré nous ici-bas sera éclatant dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a une espèce de couronne qui nous environne, une joie intense, une gloire intense. Tout ça parce que les souffrances du temps présent produisent, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle. Waouh ! C'est pour ça que la perspective du ciel, elle devrait nous encourager à connaître Dieu et à le glorifier. Elle devrait nous encourager à prendre des responsabilités ici-bas dans son œuvre, à le servir de tout notre être, à nous appliquer à vivre pour lui dès à présent, au travers même des souffrances. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Quand Dieu il dit « c'est bien, fidèle serviteur », est-ce qu'il est en train de dire « waouh, tu m'as impressionné sur ce coup-là » Non, c'est pas la grandeur de l'œuvre qu'il est en train de montrer. C'est la fidélité dans la communion avec son Dieu, avec son Créateur, au travers des souffrances, au travers des difficultés par lesquelles on passe. C'est simplement notre attachement à lui, la confiance que l'on place dans sa personne, le secours qu'on vient chercher en lui. Les fois où on va juste se repentir parce qu'on a défailli, les choses qui nous auront écrasés, les jours où on se sera juste blotti en lui. Tout cela prendra un sens dans l'éternité. Voilà, chers amis, la fin de cette série sur le ciel. J'espère qu'elle aura pu susciter en vous le désir d'avoir part à la gloire à venir. Tout ce qui est glorieux, tout ce qui est élevé, tout ce qui est béni est réservé au ciel pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur. Le ciel est peut-être proche, peut-être plus proche que nous le pensons. Ces derniers temps, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on m'annonce un décès. Je dis, ben voilà. Et parfois des décès qui sont inattendus. La gloire est peut-être très proche pour l'un de nous aujourd'hui. Alors, nos pensées doivent focaliser sur ce ciel de gloire. Parce que la manière dont on appréhende le ciel, c'est la manière dont on va pouvoir vivre ici-bas. Et glorifier Dieu d'une manière efficace.